Oui, on choisit sa sexualité, oui. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, oui.
Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, quelle serait votre réaction?
Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison.
L'orientation sexuelle qui est un choix, eh oui.
C'est à l'occasion du débat autour de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes qu'aura ressurgi dans la sphère publique un argument que l'on pensait en 2019 enterré depuis belle lurette, mais qui manifestement a eu suffisamment d'écho pour que divers éditorialistes et animateurs avides d'audience et de scandales à peu de frais ne s'en emparent. L'homosexualité est-elle un choix? Le député UDI qui avait jeté le pavé dans la mare à la tribune de l'Assemblée nationale a bien essayé de se justifier en expliquant qu'il refusait de penser que l'homosexualité soit un déterminisme. Entre gène gay et retour des thérapies de conversion, que nous dit la science à ce sujet? Bonjour Stéphane Clerget.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, auteur de « Comment devient-on homo ou hétéro ?» C'est aux éditions Lattès. Alors, est-ce que l'homosexualité est un choix?
L'homosexualité est soumise à des facteurs pluriels. Et c'est vrai qu'on parle de préférence sexuelle, ce qui pourrait laisser penser qu'il y a un choix parmi divers choix. Et on parle aussi en psychanalyse de choix d'objet. Pour autant, on ne peut pas considérer que l'homosexualité, comme l'hétérosexualité, soit soumise à un choix volontaire. C'est-à-dire que la volonté n'intervient pas dans le choix amoureux. Et ça, c'est décrit depuis l'Antiquité, hein, avec Eros et son arc, ou alors avec la potion de Tristan et Isolde, au même titre que la volonté n'intervient pas dans la possibilité orgasmique, hein, qui fait suite à des stimulations mécaniques d'un corps sexué.
Pourtant, ce qu'on entend dans ces discours-là, le député Pascal Brindeau, pour le citer, qui est député UDI à l'Assemblée nationale, qui a beau justifier en disant toutes les études l'ont montré, qu'il y a des études aujourd'hui qui montrent que l'homosexualité pourrait être un choix.
Alors, je pense qu'il y a un malentendu. Peut-être entend-il par là des choix inconscients. Mais non, l'orientation sexuelle, c'est un apprentissage qui s'installe au fil du temps. L'orientation sexuelle n'est pas innée. Hein. Il n'y a pas un instinct sexuel, il n'y a pas un instinct de reproduction. Le comportement érotique est le fruit d'un lent apprentissage qui est soumis à des influences diverses. Mais c'est surtout les expériences individuelles de l'enfant, puis de l'adolescent. Et puis, c'est l'influence aussi, évidemment, sociale, familiale. Donc, il y a un certain nombre d'aléas qui vont faire que chacun va avoir une construction sexuelle, une construction affective tout à fait singulière.
Justement, à propos de cette composante génétique, qui était aussi une sorte de vieux serpent de mer, la science s'est posée la question de savoir si l'homosexualité pouvait être génétique. Or, il y a une étude récente publiée sur une grande cohorte en épidémiologie qui a conclu, publié dans la revue Science, qui est tout de même une grande revue scientifique, sur l'absence d'existence d'un gène gay, mais néanmoins une composante génétique, une sensibilité génétique. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre, Stéphane Clerget?
Oui, dans la deuxième partie du XXe siècle, il y a eu un certain nombre d'études génétiques et qui ont montré qu'il n'y avait effectivement pas de gènes liés à l'orientation sexuelle, c'est-à-dire que si on prend toutes les personnes ayant un certain type d'orientation sexuelle, ils n'ont pas un gène en commun que les autres n'auraient pas. Il y a eu des études aussi sur des jumeaux qui montrent bien que l'orientation sexuelle n'est pas soumise aux gènes, et quand bien même il le serait, c'est que la génétique intervient dans la morphologie, la génétique intervient aussi dans la physiologie, et c'est vrai que l'apparence physique est un élément parmi d'autres qui peut influencer le regard que l'on porte sur soi. Le fait, par exemple, pour un petit garçon d'avoir une apparence gracile ou féminine peut faire que l'environnement familial va plus regarder ce petit garçon-là comme étant plus féminin, et ce regard-là pourrait vaguement favoriser une orientation homosexuelle.
On se rend compte, Stéphane Clerget, qu'il y a toujours dans le débat public une grande confusion entre l'identité de genre et l'identité sexuelle. On peut peut-être préciser que ça n'est pas tout à fait la même chose.
Ah, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'orientation sexuelle, d'ailleurs les termes homosexuel et hétérosexuel sont récents, hein, ils datent du milieu du 19e siècle. Et ils définissent des orientations sexuelles particulières, mais ils ne définissent pas une identité. L'identité, le fait d'être garçon ou de se sentir garçon, ou d'être fille ou de se sentir fille, ne préjuge pas de l'orientation sexuelle. Donc non, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui peut évoluer, d'ailleurs qui évolue au fil du temps, hein. C'est pas quelque chose de figé, puisqu'il y a une plasticité cérébrale qui fait que nos comportements érotiques et nos choix affectifs peuvent évoluer au fil du temps, évidemment beaucoup plus rapidement au cours de l'adolescence, alors que l'identité apparaît davantage fixée, même si elle peut aussi être soumise parfois à évolution.
Si ces désirs érotiques peuvent évoluer, ça veut dire qu'on peut guérir de l'homosexualité ?
On ne peut pas guérir de l'homosexualité parce que l'homosexualité, comme l'hétérosexualité, c'est d'abord une compétence. C'est une compétence à aimer. Et quand on est, on
est... Ça n'est pas une maladie, déjà.
Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Ça a été considéré dans certains États comme une maladie au XIXe siècle, hein, où c'était assimilé à une dégénérescence, et donc à ce titre-là, comme quelque chose d'acquis et non pas d'inné, et au XXe siècle également comme une pathologie psychiatrique. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Autrefois, ce n'était pas considéré comme une maladie. Au Moyen-Âge, en Occident, on ne considérait pas du tout l'homosexualité comme une maladie. C'était un péché et c'était un comportement sexuel qui était condamné au même titre que tous les comportements sexuels à visée non procréative. Donc cette notion de maladie, c'est quelque chose finalement d'assez récent et qui aujourd'hui en tout cas disparaît. Donc ça n'est pas une maladie, c'est une compétence. Donc si on a en soi les compétences à aimer les gens de son sexe comme les compétences à aimer les gens de l'autre sexe, il est évident qu'on va favoriser la compétence à aimer les gens de l'autre sexe puisque ça va être soutenu socialement et puis parce qu'on a le modèle de ses parents qu'on a envie de reproduire.
On entend aussi dans la bouche de certains dirigeants politiques en Asie, en Russie, en Afrique aussi, que l'homosexualité serait un problème occidental.
Alors, ça n'est pas un problème occidental. C'est des études ont montré que ça existe dans toutes les sociétés, que le désir homosexuel est quelque chose de naturel, qui fait partie de la nature humaine. C'est minoritaire aussi parce que ça n'est pas valorisé socialement, au même titre que le fait d'être gaucher, par exemple, est minoritaire, mais est normal. Donc c'est une normalité minoritaire qui coexiste aussi souvent avec l'hétérosexualité, hein, et du coup on parle de bisexualité, mais ça n'est pas non strictement occidental, simplement aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique, on est menacé de mort si on pratique l'homosexualité. Donc il y a un certain nombre d'homosexuels qui se retiennent et qui ne pratiquent pas l'homosexualité simplement parce que c'est dangereux.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'homosexuels comme on a pu le proclamer en Iran, par exemple, comme le disait Mahmoud Ahmadinejad ou en Tchétchénie.
Non, c'est bien sûr absurde de considérer qu'il y aurait des peuples plus ou moins homosexuels. Non, en revanche, il y a des cultures qui l'autorisent et des cultures qui l'interdisent.
Dernière question, Stéphane Clerget. Quand on dit que l'homosexualité est un choix, on peut entendre certains éditorialistes dire, par exemple, que eh bien, finalement, c'est un choix social. C'est-à-dire que eh bien, si on veut avoir des enfants, on fait un papa, une maman, et puis eh bien, on est libre d'aller voir à côté, mais que, mine de rien, si on choisit de vivre avec une personne du même sexe, c'est un choix social et que ce choix social là, il faut l'assumer. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça ?
On peut choisir de vivre en couple parce qu'on est tombé amoureux de quelqu'un de son sexe et pour autant souhaiter être parent, puisque les personnes homosexuelles ne sont pas stériles. Donc c'est deux projets différents, le projet de couple et le projet de parentalité. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de cultures où l'enfant n'était pas forcément élevé ou n'est pas forcément élevé par le couple biologique, parental, père-mère, mais parfois par la mère et par l'oncle maternel, par exemple.
Merci beaucoup Stéphane Clerget. Je rappelle que vous êtes psychiatre, auteur de « Comment devient-on homo ou hétéro ?» C'est aux éditions Lattès. Les idées claires, c'est un programme proposé par Nicolas Martin, coordonné par Aurélie Boiseau, réalisé par Luc-Jean Reynaud, avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.